Tipeee. Il est 1h du matin à Tel Aviv, 18h à New York. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est minuit. Les dernières nouvelles du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Mathis Slimano, bonsoir mon cher Mathis.
Bonsoir mon cher Zéphirin. Zéphirin Quadio pour l'actualité africaine. Dans le reste du monde, l'UNRWA a 48 heures pour quitter Jérusalem. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, persona non grata. C'est pourtant depuis la ville israélienne qu'elle opère depuis 75 ans. Le chef de l'ONU exige que ce retrait soit annulé. À Washington, en revanche, on soutient la décision. Les États-Unis et ce nouvel épisode au chapitre du nucléaire iranien. Donald Trump veut un contrôle poussé. L'Iran, de son côté, durcit sa position. On est à Téhéran dans ce journal. À suivre aussi, le Premier ministre de la Serbie démissionne sous la pression de la rue. Une sorte de paratonnerre pour le président Vučić. Explication dans cette édition. Et puis on va aussi à Valence. 3 mois après les inondations, certaines aides tardent encore à arriver. La grande marche du retour se poursuit dans la bande de Gaza. Ils sont plus de 376 000 Palestiniens à avoir regagné le nord de l'enclave en 48 heures et l'ouverture du corridor de Netzarim, selon l'agence humanitaire des Nations Unies. Des déplacés qui ne pourront bientôt plus compter sur l'aide de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, sommée de quitter d'ici jeudi Jérusalem, d'où elle opère, et ce en vertu d'une loi adoptée à l'automne par le Parlement israélien. Les perspectives de paix et de sécurité dans les territoires palestiniens sont menacés par cette décision, dénonce le chef de l'UNRWA, l'agence qui opère dans la bande de Gaza depuis 75 ans. Philippe Lazzarini a tiré la sonnette d'alarme ce mardi à New York devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU.
Depuis le début du cessez-le-feu, l'UNRWA a fait entrer 60% de la nourriture à Gaza à destination de plus d'un demi-million de personnes. La seule présence de l'agence garantit la stabilité dans un contexte d'incertitude. En Cisjordanie occupée, où la violence augmente, mettre fin aux opérations de l'UNRWA privera les réfugiés palestiniens de l'éducation et de soins. L'autorité palestinienne a fait savoir clairement qu'elle n'a ni les ressources financières ni les capacités de compenser la fin de nos activités. Dans Jérusalem-Est, le gouvernement israélien a demandé à l'agence de vider ses locaux et cesser ses opérations d'ici jeudi. Eh bien, cela affectera 70 000 patients environ et plus de 1000 étudiants. Les attaques incessantes contre l'UNRWA nuisent à la vie et au futur des Palestiniens dans tous les territoires occupés. Cela sape la confiance envers la communauté internationale et cela menace les perspectives de paix et de sécurité.
Et alors que les États-Unis de Joe Biden avaient coupé leur financement à l'UNRWA après des soupçons de collusion entre l'agence et le Hamas, soupçons émis par Israël, aujourd'hui Donald Trump dit soutenir la décision israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, invité à la Maison-Blanche mardi prochain par Donald Trump. Le président américain qui a suggéré il y a quelques jours de faire le ménage à Gaza en déplaçant de force les 1 500 000 habitants de l'enclave vers la Jordanie et l'Égypte, une idée rejetée dans la foulée par les deux États, eh bien, elle fait réagir en Europe. Ce mardi, le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié d'inacceptable l'idée d'expulser les Palestiniens de Gaza, même son de cloche du côté de Paris. L'actualité internationale marquée aussi par l'Iran qui tente de tenir tête aux États-Unis de Donald Trump. Le président américain avait affirmé que Téhéran devait accepter un contrôle beaucoup plus poussé de son programme nucléaire, manière d'empêcher le pays d'obtenir l'arme atomique. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les autorités iranienne Siavosh Ghazi. Téhéran a donc durci sa position vis-à-vis des États-Unis sur le dossier nucléaire, mais aussi les questions régionales.
Dans un entretien à la chaîne britannique Sky News, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que l'Iran était prêt à entendre les propositions américaines sur le dossier nucléaire, mais que les États-Unis devaient faire des concessions importantes pour aboutir à un accord. Déjà, le vice-ministre des Affaires étrangères avait déclaré hier qu'un accord sur le dossier nucléaire avec Washington sera difficile à atteindre. Le président Trump avait en effet affirmé que l'Iran devait faire des concessions importantes pour permettre un nouvel accord sur le dossier nucléaire. Les Occidentaux accusent Téhéran d'avoir accéléré son programme nucléaire, contrairement à l'accord de 2015 avec les grandes puissances. Sur le plan régional, le chef de la diplomatie iranienne a également pris le contre-pied du président Trump qui a souhaité le transfert des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie.
Les Palestiniens ne peuvent être expulsés. expulsés, mais j'ai une autre proposition. Essayez d'expulser les Israéliens. Envoyez-les au Groenland. Comme ça, vous ferez d'une pierre deux coups.
Alors que la situation économique du pays ne cesse de se dégrader avec une hausse presque quotidienne des prix, les responsables iraniens semblent vouloir croiser le fer avec le président Trump et son administration qui veulent accentuer la pression contre Téhéran. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
RFI, il est 1h05 à Goma, où les blessés affluent dans les hôpitaux de la grande ville de l'Est de la RDC, en proie au combat entre armées congolaises et M23 soutenues par le Rwanda. Plus de 370 blessés, au moins 17 morts depuis lundi, et l'offensive des rebelles sur la capitale du Nord Kivu que tente de fuir un grand nombre d'habitants et de déplacés. Un calme relatif a été observé cet après-midi, permettant aux gomatraciens privés d'eau, d'électricité, de vivre, de chercher des provisions. Mais la situation ne permet pas à l'aide alimentaire d'être distribuée, s'alarme l'ONU en RDC, les Nations Unies qui s'inquiètent aussi d'attaques sur des bases ethniques. J'ajoute ces réactions à l'international. L'Allemagne annonce suspendre son aide au développement pour le Rwanda. Les attaques plus tôt ce mardi contre des ambassades occidentales à Kinshasa, qualifiées d'inacceptables par l'Union européenne, tandis que les États-Unis appellent leurs ressortissants présents en RDC à quitter le pays. Et on en vient à cette décision qui pourrait apaiser les tensions. C'est en tout cas ce que pense le pouvoir serbe. Ce mardi, le Premier ministre a annoncé sa démission après des semaines de contestations dans la rue. Contestations provoquées par le dramatique incident de la gare de Novi Sad en novembre dernier. Bilan 15 morts. Visiblement, la pression de la rue commence à payer avec donc la démission du chef du gouvernement. Mais elle pourrait aussi galvaniser l'opposition. Daniel Valo.
Miloš Vučević était à la tête du gouvernement depuis moins d'un an. Auparavant, il avait occupé les fonctions de ministre de la Défense. Il a également été maire de Novi Sad et c'est sous son mandat de maire qu'ont été réalisés les travaux de la gare. Travaux conclus quelques mois avant l'effondrement de l'auvent qui a provoqué la mort de 15 personnes en novembre dernier. Alors bien entendu, la démission de Miloš Vučević doit servir de paratonnerre au président serbe Aleksandar Vučić, qui est au pouvoir en Serbie depuis 2012 et qui assure avoir répondu aux demandes des manifestants et des étudiants qui défilent depuis des mois dans les rues de Belgrade et des principales villes du pays. Cette fois, devant l'ampleur de la contestation, c'est donc le chef du gouvernement qui est sacrifié. Mais la réalité du pouvoir en Serbie, c'est bien le président Vučić qui l'exerce. Il reste donc à voir la réaction dans la rue de l'opposition et des étudiants qui pourraient décider de maintenir la pression pour faire vaciller le président serbe lui-même.
Vladimir Poutine a peur de négocier. C'est en tout cas ce qu'affirme ce mardi le président ukrainien. Réaction après que son homologue russe ait exclu de discuter directement avec lui. Vladimir Poutine affirmatif sur l'issue de la guerre. Selon lui, elle se terminerait en 2 mois sans l'aide militaire des alliés de l'Ukraine. Le pays qui déplore d'ailleurs de nombreux programmes suspendus, notamment dans la santé, et ce depuis la suspension de l'aide humanitaire américaine vers une grande partie des pays du monde. L'actualité du monde justement nous emmène à présent à Valence. 3 mois après les inondations meurtrières en Espagne, la région peine à se relever. L'État a bien distribué des aides d'urgence, mais les indemnisations complètes tardent encore à arriver, tant pour les particuliers que pour les pouvoirs publics. Illustration à Aldaya, Élise Gazangel.
Il y a 3 mois, Monica Sanchez a dû s'échapper de chez elle avec ses filles en grimpant sur une échelle pour atteindre l'appartement de sa voisine. Depuis Noël, elles sont de retour dans leur maison et vivent désormais entourées de cartons et des ouvriers.
Le four vient d'une association, la machine à laver de l'église d'ici, d'Aldaya, et quelques autres choses. Presque toute l'aide vient du privé.
Ces dons lui permettent de dédier les 6 000 euros de l'aide d'urgence au paiement des ouvriers qui refont les murs de son salon dans l'attente d'une indemnisation complète.
L'expert m'a appelé par vidéo, mais je ne sais toujours pas combien il estime les dommages. J'attends toujours.
L'État a aussi promis aux mairies d'assumer 100% du coût des réparations d'infrastructures municipales. Guillermo Luján, maire d'Aldaya.
On estime à
34 millions d'euros la réparation. Et en attendant, on survit avec notre petite brigade qui répare les serrures et les portes des immeubles publics.
Cette catastrophe est d'ores et déjà la plus coûteuse de l'histoire du pays. Élise Gazangel, Aldaya, RFI.
Et puis au mondial de handball, la France file en demi-finale. Les Bleus se sont imposés sur le fil 34-33 contre l'Égypte. Au prochain tour, c'est la Croatie qui les a.